Voilà, alors on va continuer et terminer notre parcours sur la messe. Donc il y aura combien de parties? 5 parties, on va dire. Bon, c'est un peu. En première, ce sera sur le Notre Père. Hein. Là, on a terminé la prière eucharistique la dernière fois, donc ce sera le Notre Père. Après, le rite de la paix. Après, la fraction du pain, l'immixtion, vous savez ce que c'est? Quand on le prêtre met une parcelle de l'hostie dans le précieux sang et l'agneau de Dieu. Après la communion et après les rites de conclusion. Alors là, on n'est plus dans la liturgie eucharistique proprement dite, mais donc c'est, voilà. Et quelques mots sur l'adoration eucharistique. Alors ça dépendra du temps qu'on aura. Voilà. Donc vous vous rappelez les grandes parties de la liturgie eucharistique, de la messe. Donc il y a l'introduction, il y a grosso modo deux grandes parties, la liturgie de la parole, la liturgie eucharistique, et puis avant il y a l'introduction et à la fin la conclusion, les rites de conclusion. Voilà, donc c'est la troisième fois qu'on est dans la liturgie eucharistique, on a parlé de la liturgie des offrandes, du Sanctus, enfin de la préface du Sanctus, et après la prière eucharistique, c'était la dernière fois, et puis là donc... On termine. Alors, il y a plusieurs sommets, on pourrait dire, mais un sommet, peut-être la partie la plus importante, c'est quand même la prière eucharistique, là où le pain devient le corps de Jésus, mais là aussi où on est comme participant de la croix de Jésus. Hein, on est comme la Vierge Marie et Saint Jean au pied de la croix. Donc, il y a ce moment très important. Et puis après, donc, aujourd'hui, donc, c'est la liturgie de la communion. Mais quelque part, ça ne serait pas complet non plus la prière eucharistique s'il n'y avait pas cette liturgie de la communion après. Vous savez que dans l'Ancien Testament, donc, il y a plusieurs types de sacrifices, mais il y a notamment l'Holocauste, on brûle tout, donc on ne mange rien après, tout est grillé. Et puis, il y a aussi les sacrifices de communion. Et les sacrifices de communion, donc, c'est... Il y a un sacrifice, mais après, on mange une partie de la victime qui est offerte. Alors, c'est ce qui se passe en quelque sorte à la messe, puisqu'il y a la partie du sacrifice, proprement dite, mais qui est comme complétée, on pourrait dire, par la liturgie de la communion, où on reçoit la victime qui a été offerte. Hein? Et de fait, dans les prières de la consécration, qu'est-ce que dit Jésus? Il dit pas simplement « ceci est mon corps », mais il dit aussi « mangez-en tous ». Il dit pas simplement « ceci est mon sang », mais aussi « buvez-en tous ». Donc, quelque part, ça ne serait pas complet si on n'arrivait pas à cette liturgie de la communion. J'y reviendrai un petit peu, mais on pourrait dire... Quelquefois, on parle de l'Eucharistie comme d'un banquet, alors c'est le moment, justement. Voilà, je vous lis un extrait de la présentation générale du Missel romain. Puisque la célébration eucharistique est le banquet pascal, il convient que, selon l'ordre du Seigneur, son corps et son sang soient reçus par les fidèles bien préparés comme une nourriture spirituelle. Voilà, et c'est à ça que tendent la fraction du pain et les autres rites préparatoires par lesquels les fidèles sont immédiatement amenés à la communion. J'ai dit peut-être un petit peu, mais je ne sais pas dans quelle mesure j'ai été clair ou pas, mais il y a toujours une dimension assez objective dans la liturgie, dans les sacrements, et une dimension plus subjective. La dimension objective, ben on va prendre l'exemple du baptême, vous versez de l'eau, vous dites la parole « je te baptise au nom du Père et du Fils et du... » vous ressentiez quelque chose ou pas, peu importe, il devient enfant de Dieu. Hein. Du moment que vous voulez faire ce que fait l'Église et que vous faites... voilà, il y a ce côté très objectif des sacrements. Vous venez vous confesser, le prêtre vous donne le pardon. Mais voilà, c'est objectif, il n'y a pas à vous torturer l'esprit, que vous soyez distrait ou pas. c'est quand même... Mais il y a aussi une dimension subjective qui est très importante aussi. Et alors, en quelque sorte, subjectivement, c'est peut-être le moment de la communion qui est le moment le plus grand de la messe, d'une manière subjective, même si objectivement, c'est le moment du sacrifice. on pourrait dire, mais subjectivement, c'est quand même très important. Alors, il m'est arrivé de... Alors, j'avais repris un enseignement du cardinal Danels qui disait que, grosso modo, hein, il y avait des choses qui nous paraissaient au regard qui n'est pas très connaisseur, un peu hétéroclite dans la messe, mais lui voyait le fil conducteur comme une préparation tout le long de la messe à la communion. Et j'aime bien cette manière de voir, alors c'est l'aspect plus subjectif, mais en voyant la messe comme un chemin vers la communion, tout est finalisé en... par ce moment où on va recevoir le corps de Jésus, on pourra être vraiment en communion avec lui. Alors, quelquefois, on peut imaginer un peu ça comme dans une maison. La liturgie d'ouverture, c'est un peu comme l'entrée dans la maison. Voilà, il y a aussi le paillasson où on se nettoie les pieds, tout ça. Donc, c'est toute la liturgie pénitentielle, etc. On pourrait voir ça, mais qui est importante quand on n'entre pas en communion comme ça, il y a besoin d'une préparation pour la communion. Après, il y a la liturgie de la parole. On a besoin de mettre des mots et tout ça pour... Et pour nous, dans notre relation avec Dieu, de comprendre, d'entrer un petit peu plus dans son mystère, etc. Mais tout ça, c'est finalisé par la communion, mais on a besoin de ces étapes-là. Et après, il y a l'étape... alors, ça pourrait être le salon, on va discuter, ou voilà. Et puis après, mais c'est quand même une intimité un peu plus grande, je pense, déjà de la table où on sert, on invite. Mais bien sûr, on n'invite pas tout le monde dans sa chambre, a priori, ça nous semble une évidence, parce que, et quelque part, le moment de la communion, c'est le moment le plus intime de notre qu'on vit avec le Seigneur, mais ça a demandé toute une préparation. La communion, elle se fait pas comme ça d'entrée de jeu, voilà. Et ça peut être un peu imagé, on pourrait dire, par la structure de la maison, voilà. Et de voir la messe comme au moins d'une manière subjective, comme finalisée par ce moment de communion. Dans la mesure, on n'est pas complètement distrait dans la messe, ce qui peut quelquefois nous arriver, hélas. Mais peut-être pas vous, hein, mais... Alors, donc, nous, cette fois-ci, donc, on voit cette liturgie de la communion qui est vraiment importante, qui est un sommet, au moins de manière subjective, dans ce qu'on va vivre avec le Seigneur. Alors donc, maintenant, je veux vous parler du Notre Père. Ça sera le premier des cinq points. Donc, je vais pas tellement détailler la prière du Notre Père, parce que je pense que vous avez mille occasions d'en entendre parler, hein, du Notre Père. Donc, je vais pas trop détailler. Vous voyez, ça fait sauter des pages. Alors, en revanche, je vais... Pourquoi est-ce qu'on dit le Notre Père à cet endroit-là? Ça, je vais m'arrêter un tout petit peu là-dessus. En fait, d'après ce que je peux comprendre, hein, vous avez peut-être des choses à compléter, mais il y a deux éléments principaux qui font qu'on dit le Notre Père précisément à ce moment-là. Alors, ça a pu varier un petit peu dans l'histoire de la messe, mais ça fait quand même... depuis très longtemps que dans la liturgie latine, en tout cas, le Notre Père se est placé à cet endroit-là. D'abord, semble-t-il, c'est parce que dans le Notre Père, on demande le pain de ce jour. Et alors, vous savez peut-être, la traduction, c'est un mot un peu particulier. Alors, les exégètes ne savent pas toujours très bien comment traduire ce pain tel que ça apparaît dans l'Évangile. Alors, ce pain, ça peut se référer à plusieurs choses. Il y a le pain matériel, hein, on fait confiance en la providence aussi, clairement. Hein, on voit, il y a eu la multiplication des pains, etc. Mais on sait bien que ce n'est pas uniquement ça, parce que la multiplication des pains, hein, vous savez que Saint Jean ne relate pas la scène, mais il détaille beaucoup la multiplication des pains dans le chapitre 6, et il y a tout le discours sur le pain de vie à ce moment-là. Donc, c'est pas uniquement ce pain, c'est pas uniquement le pain matériel. Et alors, justement, le texte grec de saint Matthieu parle du pain supersubstantiel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Mais alors, on l'entend bien évidemment aussi de l'Eucharistie. Donne-nous le pain de ce jour, donne-nous cette nourriture, pas seulement pour notre corps, mais pour notre âme, etc. Donc, c'est la première raison, je pense, pour laquelle on dit notre Père, parce que vraiment, on lui demande à ce moment-là notre pain dont on a vraiment besoin pour vivre. Mais aussi pour une deuxième raison, parce qu'il est question du pardon dans notre Père. Et que le pardon est essentiel pour accueillir le Seigneur. Donc, Saint Paul insiste aussi sur une forme de pureté du cœur pour accueillir le Seigneur, on en reparlera un petit peu, mais notamment de ne pas être dans la haine, etc. Il y aurait comme un contraste un petit peu violent entre justement arriver à la communion et puis ne pas vouloir la communion. Donc c'est pour ça que le pardon, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont, a vraiment une place importante. Dire le Notre Père à ce moment-là, c'est pas par hasard qu'on le dit à ce moment-là, c'est parce qu'on veut, c'est pas qu'on le demande, mais aussi parce que on dit notre volonté de pardonner, même si on n'y arrive pas forcément encore. Mais voilà, donc c'est, me semble-t-il, les deux raisons principales qui font qu'on dit le Notre Père à cet endroit-là. Après le Notre Père, il y a une prière qu'on appelle l'embolisme. Ce n'est pas une embolie. L'embolisme. Alors, c'est E-M, comme une embolie, mais c'est un isme. E-M-B-O-L-I-S-M-E. Alors, l'embolisme, ce mot compliqué et barbare, c'est « Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Et nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. » Donc ça, c'est l'embolisme qui se prolonge par une doxologie, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. L'embolisme, le mot grec, ça veut dire c'est quelque chose qui est intercalé. C'est déjà, l'embolisme, déjà au VIe siècle, était présent dans les livres liturgiques. Donc, c'est pas quelque chose qu'on a sorti après Vatican II. C'est quelque chose c'est quelque chose qui vient un petit peu entre les deux et qui fait la transition entre le Notre Père, l'oraison dominicale, comme on l'appelle, et le rite de la paix qui va suivre après. Donc, dans cet embolisme, on voit, on redemande, délivre-nous de tout mal, donne la paix à notre temps, à l'abri, alors en toute épreuve ou de toute épreuve, et avec cette perspective de l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Voilà. Ça, on le dit avant de, justement, le baiser de paix, le souhait de paix qui adviendra après. C'est là un prolongement des dernières demandes de notre Père, délivre-nous du mal, et après on redéveloppe, délivre-nous de tout mal, Seigneur, etc. Et puis cette doxologie qui est très ancienne aussi, voilà. Après, donc ça c'était le premier point que je voulais aborder, c'est le Notre Père. Après, on arrive au rite de la paix. Ce qui est intéressant avec ce rite de la paix, alors vous allez me dire, à qui on s'adresse pendant la prière eucharistique? Et généralement pendant la messe, à qui on s'adresse? Plus précisément au Père. Toute la prière est orientée vers le Père. Et quelque part, nous, on fait corps avec Jésus. L'Église, et nous en particulier, fait corps avec l'Église. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant. Mais toute la prière, et après on dit notre Père, toute la prière, si vous regardez bien, Il y a quelques exceptions, mais habituellement, les oraisons sont adressées au Père. Elles ne sont pas adressées au Fils. Il peut arriver qu'elles soient adressées au Fils, mais assez rare. En revanche, à cet endroit-là, juste après l'embolisme et la doxologie, maintenant, vous ne connaissez pas. Après, on parlera d'immixtion et tout ça. Enfin, plein de mots barbares aujourd'hui. Mais juste là, c'est une prière qui est adressée à Jésus. On retrouve, vous voyez un petit peu qu'il y a cette dimension très objective de la messe où le prêtre, quand il fait les gestes, il les fait au nom de Jésus. C'est, alors, normalement, il s'y associe, etc., bien sûr. Mais il y a quelque chose de très objectif. Mais là, c'est comme si ça détonnait un tout petit peu, cette prière. Soudain, on s'adresse à Jésus. Hein, vous connaissez cette... cette prière, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres. C'est presque à voix basse, hein, Jésus. là, on ne s'adresse plus au Père. Et tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma... Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. C'est presque une prière de dévotion, en quelque sorte. Vous sentez qu'il y a un petit décalage avec toutes les prières, beaucoup plus, comment dire, peut-être avec beaucoup de majesté, etc. Et là, ben, c'est une prière plus intime, quelque part, avec Jésus. Ben, Jésus. Et on le prend au mot. Tu as dit que tu donnerais la paix. Alors Jésus, fait quelque chose. Alors que jusque-là, on fait corps avec Jésus, par lui, avec lui. Là, on fait un petit pas en arrière et on s'adresse à Jésus pour continuer avant la communion. Je trouve que c'est intéressant, cette attitude. Et donc, ça laisse place à davantage de sentiments, quelque part. Hein, que, voilà. Alors, à ce moment-là, on demande la paix. Quelque part, c'est Jésus, notre Père. Vous connaissez ce passage de l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, versets 14 à 17. Ce n'est pas fortuit que, juste avant de demander la paix, c'est vraiment à Jésus qu'on s'adresse. On le retrouve dans plein de passages d'Évangile, etc. Mais ces versets des Éphésiens sont très beaux. C'est lui, le Christ, qui est notre paix. Des deux, le juif et le païen, il a fait une seule réalité. Par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine. Il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir des deux, le juif et le païen, il a voulu créer en lui un seul homme nouveau en faisant la paix et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par le moyen de la croix. En sa personne, il a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Et donc, juste avant le baiser de paix, voilà, c'est vraiment, on se tourne vers Jésus et on lui demande ce don de la paix. Parce que c'est lui qui a offert sa vie précisément pour, comme disait Caïphe, pour réunir les enfants de Dieu dispersés. Alors après, il y a le baiser de paix. Bon, on constate qu'à une certaine époque, c'était systématique, le baiser de paix. Maintenant, c'est moins systématique. Et de fait, dans la présentation du missel, si cela paraît opportun, on propose aux fidèles de se donner la paix. Mais ce n'est pas obligé. Et en ce qui concerne le signe de paix à transmettre, son mode est à déterminer par les conférences des évêques, selon la mentalité, les us et coutumes des peuples. Il convient toutefois que chacun souhaite la paix de manière sobre et uniquement à ceux qui se trouvent le plus près. Donc, il y a quelques... il peut y avoir quelques exceptions, bien entendu, mais du coup, ça a été un petit peu recadré ces dernières années sur le baiser de paix. On le verra aussi un petit peu plus loin. Le baiser de paix est un geste sacré qui ne se réduit pas à une poignée de main banalisée ni forcée. Donc après, il faut trouver la manière de se donner la paix, mais d'avoir conscience que c'est pas... Il y a quelque chose de profond qu'on est en train de vivre. Hein. Si vous vous rappelez les versets de saint Paul, c'est lui le Christ qui est notre paix. Hein. C'est, quand on donne la paix, ce n'est pas notre paix à nous qu'on donne. Hein. C'est la paix du Christ. Hein, donc. Et il a donné sa vie pour ça. Donc ce n'est pas des embrassades chaleureuses. Bon, elles peuvent être chaleureuses, hein, je ne suis pas contre. Mais c'est un geste sacré. C'est là que c'est important de garder ça. Alors, pourquoi le baiser de paix à cet endroit dans la liturgie? Certaines liturgies le mettent avant la préparation des dons. Avant de si tu vas présenter ton offrande à l'autel, alors avant de présenter ton offrande à l'autel, ben, réconcilie-toi et tout ça. Donc, à l'offertoire, finalement, avant l'offertoire. Et c'est au 5e siècle, quand même, que le rite a été déplacé après le Notre Père. Et alors, Notre Père a été introduit au 4e siècle à ce moment-là. Donc, ça fait quand même quelques années, hein, 300 et quelques. Voilà. Et alors, Benoît XVI, dans l'exhortation apostolique Sacramentum Caritatis, avait demandé d'étudier la possibilité de placer le geste de paix à un autre moment, par exemple avant la présentation des dons à l'autel. Pourquoi ? Parce qu'il trouvait que l'échange du signe de paix génère une certaine agitation parmi les fidèles. Voilà. Alors du coup, la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements a consulté les conférences épiscopales du monde entier, hein, sur ce point précis, et large majorité pour dire non, il faut le laisser à cet endroit-là. Voilà. Alors du coup, après, donc, toujours cette Congrégation pour le culte divin a pris quelques dispositions en vue d'une meilleure expression du signe de la paix et pour en modérer les excès. Voilà. En tout cas, voilà pour le rite de la paix. Bon, on voit que c'est des choses aussi qui sont pensées aussi. C'est pas. Voilà. Alors ça, c'était le deuxième point que je voulais aborder. Troisième point, c'est à la fraction du pain, l'immixtion et l'agneau de Dieu. Alors la fraction du pain. Vous notez que c'est pas au moment de la consécration, parce que on fait pas les gestes qui correspondent forcément exactement aux paroles. Parce que à la consécration, il rompit le pain. Non, c'est pas le moment où on de la fraction du pain. Donc l'hostie reste entière jusqu'à ce moment-là. Mais la fraction du pain, c'est un moment important parce que vous rappelez les disciples d'Emmaüs, quand est-ce qu'ils ont reconnu Jésus? À la fraction du pain. Dans le chapitre 2, des Actes des Apôtres, juste après la Pentecôte, il se montrait assidu à l'enseignement des apôtres, fidèle à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Donc c'était vraiment le nom qui était donné à la messe, en quelque sorte, la fraction. Donc, alors. À certaines époques, c'était des vrais pains. Hein. Donc, vraiment, il y avait la fraction du pain. Alors, je vous lis ce que mes notes. Dans la liturgie papale des 7e et 8e siècles, le rite était solennisé. Le pape, avec les évêques et les prêtres concélébrants, rompait les pains fermentés de l'époque, apportés par les fidèles à l'oratoire, que les acolytes leur présentaient dans des sacs de lin. Tout le monde communiait des fragments de ces pains effectivement rompus. Alors, à partir du XIe siècle, on n'emploie plus du pain fermenté dans l'Église latine, mais du pain azim, hein, sans ferment. Et alors, du coup, ça a perdu un peu de sa visibilité, la fraction du pain. À ce moment-là, on ne pouvait pas manger un pain entier, donc la fraction s'imposait. Mais... Alors du coup, à ce moment-là, il n'y avait que l'hostie du célébrant qui était... Donc on perd un petit peu de la... C'est moins visible, hein, quelque part, c'est beaucoup plus discret. Mais après Vatican II, voilà ce que prévoit le missel de Paul VI, alors qu'on ne met pas forcément en pratique, mais voilà. La vérité du signe demande que la matière de la célébration eucharistique apparaisse vraiment comme une nourriture. Il convient donc que le pain eucharistique, tout en étant azyme et confectionné selon la forme traditionnelle, soit tel que le prêtre, à la messe célébrée avec le peuple, puisse vraiment rompre l'hostie en plusieurs morceaux et distribuer ceci à quelques fidèles au moins. Ce n'est pas ce qu'on a fait ce matin. Hein. Cependant, on n'exclut aucunement les petites hosties quand le nombre des communions et d'autres motifs pastoraux exigent leur emploi. Voilà. C'est vrai qu'à certains endroits, quelquefois, ils prennent une grande hostie et la fractionnent. Donc, ça parle davantage de cette fraction du pain qui est importante depuis les débuts de l'Église. Alors, la fraction du pain, c'est d'avoir un signe de partage. Hein, les copains, c'est ceux qui partagent le même pain. Hein, voilà. Donc, c'est un partage et Jésus a rompu les pains là, pendant à la multiplication des pains, etc. Donc, il n'a pas donné chacun son petit pain. Il a rompu les pains pour les donner. Donc, il y a une dimension de partage. Mais plus encore, il y a une dimension d'unité. Voilà ce que dit saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens. Donc, c'est l'écrit le plus ancien à propos de l'Eucharistie, la première lettre aux Corinthiens. « Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ ? Parce qu'il n'y a qu'un pain à plusieurs, nous ne sommes qu'un corps, car tous nous participons à ce pain unique. » Et alors, voilà ce que dit la présentation du missel. « Le geste de la fraction accompli par le Christ à la dernière scène et qui donna son nom à toute l'action eucharistique à l'âge apostolique, signifie que les nombreux fidèles, dans la communion à l'unique pain de vie qui est le Christ mort et ressuscité pour le salut du monde, deviennent un seul corps. » Donc, la fraction du pain, ça signifie qu'on va être, on fait partie d'un seul corps. Ou encore, ce qui est dit là, signe de l'unité de tous en un seul pain et du signe de la charité, du fait qu'un seul pain est partagé entre frères. Voilà. Alors ça, c'est la fraction du pain qui est vraiment signe aussi que voilà, on est différents, mais on est unis. L'immixtion va aussi dans ce sens de l'unité. Alors, l'immixtion, hein, comme je disais tout à l'heure, il y a une parcelle de l'hostie du célébrant qui est mise dans le calice où est le précieux sang. Et là, c'est aussi l'unité du corps et du sang du Christ. Alors, il y a un petit peu deux interprétations pour l'immixtion. Le premier, le plus attesté, je pense, c'est vraiment ce signe de communion. Dans les premiers siècles, le pape à Rome ou les évêques en leur cathédrale envoyaient un acolyte porter aux églises voisines un morceau de pain consacré que le prêtre mettait dans le calice au moment du rite de la paix. On ne dit pas l'église qui est à Noyon, mais l'église qui est à Beauvais. Hein, chaque diocèse est réuni autour de l'évêque, hein, successeur des apôtres. Et à ce moment-là, du coup, l'Eucharistie de l'évêque, on prenait et on mettait dans chaque paroisse, en quelque sorte. Mais pour manifester cette communion avec l'évêque et à travers l'évêque, avec l'Église universelle. Donc, c'est d'abord un signe d'unité. Et l'Eucharistie, alors, c'était le thème du... C'est ancien, ça, de... C'est toi notre unité, là, un hymne qui date un peu maintenant, il y a 40 ans, ça, à Lourdes. Mais justement, l'Eucharistie comme le sacrement de l'unité, c'est vraiment quelque chose qui est... Et ça se manifeste notamment dans l'immixtion. L'immixtion, ça évoque une deuxième chose, c'est pas seulement l'unité, mais c'est la résurrection. Parce que vous vous rappelez, on consacre de manière séparée le corps et le sang, le pain et le vin, pour signifier la mort de Jésus. Hein, quand on est mort, d'autant plus pour les Juifs, la vie c'est dans le sang, c'est pour ça qu'ils ne buvaient pas le sang. Mais donc ça signifie vraiment la mort, le sacrifice. Et là, on réintroduit une parcelle du corps de Jésus dans le calice pour signifier comme symbole de résurrection. Oui. Alors, les paroles que le prêtre dit au moment où il met la goutte d'eau, que quand je suis dans l'action, j'y pense même. le signe uni à la divinité, c'est notre participation. Quelque part, dans le sacrifice de Jésus, on ne reste pas simplement spectateur extérieur, hein, ça c'est au moment de l'offertoire, mais quelque part, on veut s'associer vraiment au sacrifice. C'est que la goutte d'eau à côté des... Mais on s'associe d'une certaine... C'est nous. C'est vous. C'est chacun personnellement qui, justement, s'associe. Ici, l'immixtion, c'est différent. Hein. C'est vraiment l'unité. L'unité d'abord au sein de l'Église. Et puis, le signe de résurrection après le sacrifice. Voilà. Alors, on passe à l'agneau de Dieu, l'agneau Zéi.
Je pensais qu'en fait,
quand
on a transpercé le cœur de Jésus, il y avait de l'eau et du sang qui
sont... Ah non, c'est pas directement lié à ça. C'est pas directement lié à ça. Cette goutte d'eau qu'on met, non, c'est pas lié au... C'est aussi de l'eau, mais... Alors, donc, l'agneau de Dieu. Alors, je vous lis toujours la présentation du mystère. L'invocation de l'Agnus Dei est habituellement chantée par la scola ou le chantre, et le peuple y répond, ou bien elle est dite à haute voix. Cette invocation accompagne la fraction du pain et peut donc être répétée autant de fois qu'il est nécessaire jusqu'à ce que le rite soit achevé. La dernière fois, elle est conclue par ces mots, « Donne-nous la paix ». Donc, imaginons qu'il y ait beaucoup d'ossiers, on peut reprendre l'agneau de Dieu. Voilà, c'est un détail. Donc c'est l'agneau est très présent dans la Bible. Alors on le trouve à bien des endroits. Bon, il y a l'agneau de l'Exode hein, d'abord. Hein. On marque le linteau des portes avec le sang de l'agneau. Il y a l'agneau du le serviteur souffrant. Hein, c'est la lecture qu'on lit le Vendredi Saint. Hein, tous comme des moutons, nous étions errants, chacun suivant son propre chemin. Et le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humiliait. Il n'ouvrait pas la bouche comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir, comme devant les tondeurs, une brebis muette, il n'ouvrait pas la bouche. Et puis il y a voici l'agneau de Dieu, c'est ce qu'a dit Jean-Baptiste, hein, quand au début de son évangile, hein, il y en a qui il désigne Jésus, voici l'agneau de Dieu. Et ça fait référence à l'Exode et à Isaïe. Et puis dans l'Apocalypse, l'agneau est très présent. Il est là comme immolé. Hein, donc on voit souvent l'agneau dans l'Apocalypse. Alors, je ne rentre pas plus dans les détails. Ce qui est intéressant, c'est que là, quand dans cette prière, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prend pitié de nous. C'est une phrase du Gloria. En fait, c'est une phrase du Gloria hein, qui a été reprise. Vraiment, ça a tout son sens, hein, cette présentation de l'agneau au moment où on va recevoir son corps, mais pour être sauvé. Hein, on est vraiment dans le cœur. Je ne vais pas vous en dire plus sur l'agneau. On en vient à la communion. Je vais être un peu plus long là-dessus. Alors là aussi, c'est les deux autres prières que le prêtre dit s'adresse à Jésus, mais plutôt à voix basse. Il y a deux possibilités. Hein. Il y en a une, c'est « Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde, que ton corps et ton sang très saint me délivrent de mes péchés et de tout mal, fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. » Je ne vais pas trop la commenter. Il y en a une deuxième formule, mais Voilà, c'est Seigneur Jésus-Christ, toujours adressé à Jésus, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Alors, dans cette prière, on dit bien qu'on est indigne, donc on ne se met pas dans une position en bombant le torse, mais voilà. On se rend bien compte que c'est un don qui nous dépasse et qu'on n'est pas à la hauteur. C'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui disait que les hosties ne sont pas faites pour rester dans le ciboire, mais pour être consommées. Parce que Jésus a dit « Prenez et mangez ». Qui pourrait se déclarer digne de recevoir son Seigneur dans une telle intimité ? Jésus est le Sauveur, il n'est pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. L'Eucharistie n'est pas une récompense réservée aux parfaits, mais un aliment et un remède à ceux qui ont faim et soif de la justice. Alors, donc ça c'est les prières prononcées par le prêtre. Là, je vais prendre quelques attitudes, quelques dispositions pour recevoir la communion. Ça fait pas de mal quelquefois de s'en rappeler. Alors, le prêtre déjà, donc il dit la prière, après il fait la génuflexion. Dans la liturgie antéconciliaire, il y avait beaucoup, beaucoup de génuflexions. Maintenant, il y en a combien de génuflexions ? Alors, de fait, il y en a une après la consécration du pain, après la consécration du vin. Mais du coup, les avoir réduites, ça nous donne aussi l'importance de ces moments-là, de faire la génuflexion à ce moment-là où... Donc, l'agneau de Dieu, ça je ne suis pas digne de te recevoir. Alors, on n'est jamais digne de recevoir Jésus, ça c'est clair. Mais en même temps, l'Église demande qu'on soit en état de grâce, hein, c'est l'expression. Mais qui veut dire, si on a conscience d'une faute grave, ben, on ne peut pas, hein, il faut d'abord aller se confesser avant de... Alors, je ne vous rappelle pas trop une faute grave, hein, il faut... que ce soit une matière grave, que ce soit qu'on les fait en toute connaissance de cause et avec pleinement volontairement. Donc, mais alors dans ces cas-là, il faut aller se confesser avant de communier. Pour continuer sur la veine de ce que je viens de dire, c'est Saint Paul a des paroles assez fortes dans la première épître aux Corinthiens, donc au chapitre 11 où il parle de l'Eucharistie. Voilà ce qu'il dit. Quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement aura à répondre du corps et du sang du Seigneur. Que chacun s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit sa propre condamnation s'il ne discerne pas le corps du Seigneur. Ah, donc ça peut nous faire du bien, mais quelque part ça peut nous faire du mal dans le sens aussi si on le... communie de manière, on pourrait dire, sacrilège, ben voilà, ça se retourne contre nous, la communion. Et pour le jeûne eucharistique, je ne sais pas si vous êtes au clair. Exactement, mais vous êtes parfait. Parfaite. Oui, c'est une heure avant la communion. Donc, ça a été beaucoup assoupli. Hein, même à partir de minuit, je crois, à une certaine époque, c'était... Bon, ça a été beaucoup assoupli, mais alors une heure, bon, juste avant de partir de votre maison, si vous êtes à une demi-heure de l'église, c'est quand même pas très contraignant quand même. Mais en même temps, ça, alors sauf pour les malades, ça ne s'applique pas pour les malades, ou voilà, quand il y a quelques circonstances, le malade, on vient lui, et pas de chance, ils sont venus lui donner le repas juste avant, ou ben, c'est pas grave, voilà. Donc il y a une certaine souplesse, mais c'est bon quand même de garder ça, parce que le but, c'est voilà, de faire un peu de place pour Jésus quand même. Et pas, donc c'est important de garder ça à l'esprit. Alors je vous lis le code de droit canonique, hein, tout ça c'est très précis. Qui va recevoir la très sainte Eucharistie s'abstiendra au moins une heure avant la communion de prendre tout aliment et boisson, à l'exception seulement de l'eau et des médicaments. Vous pouvez prendre autant de médicaments que vous voulez. Mais voilà. La fréquence de la communion, quel est le minimum ? Une fois par an. Alors, pour la communion, voilà, le canon 920, vous pourrez regarder. Tout fidèle, après avoir été initié à la très sainte Eucharistie, est tenu par l'obligation de recevoir la Sainte Communion au moins une fois l'an. Alors, souvent, c'est lié à Pâques, justement. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne doit pas aller à la messe, mais il y a des gens qui peuvent aller à la messe et qui veulent. Et c'est aussi pour ça qu'on associe faire ses Pâques, comme on dit, c'est aussi se confesser à ce moment-là. Mais elle encourage à beaucoup plus depuis Pie X, hein, donc bien avant le Concile Vatican II, à communier tous les dimanches, et si possible en semaine, pour ceux qui peuvent et qui ont la possibilité de... Est-ce que vous pouvez recevoir la communion plusieurs fois par jour ? C'est des petites questions. Exactement. Si... Oui, alors ça peut être la messe anticipée, mais il y a des jours aussi où Noël, il y a plusieurs messes qui sont prévues, la messe de l'aurore et la messe de 10h, mais vous ne venez peut-être pas. Il n'y a pas des foules habituellement à la messe de l'aurore de Noël, on la célèbre à 7h ici, mais bizarrement, on tient facilement dans l'oratoire. Ou alors vous êtes allé à un mariage, voilà, et vous, ben vous pouvez communier. Mais ça veut dire que vous participez complètement à la messe les deux fois. C'était le but, ce n'est pas communier pour communier. C'est... Alors, le jeûne eucharistique, mais dans un autre sens, le fait de ne pas communier sacramentellement, donc encore une fois, donc l'Église nous demande d'aller à la messe tous les dimanches, mais là, vous vous rappelez du Covid. Et alors, pendant le Covid, alors vous pouvez retrouver sur Internet, il y a eu beaucoup de textes qui ont parlé à ce moment-là de la communion spirituelle. Et je pense que c'est bien aussi de le garder en mémoire. Je vous lis un extrait, c'était Mgr Santaine, d'une prière qui proposait. Parce que cette communion spirituelle, il peut y avoir d'autres circonstances où... Bon, on ne peut pas aller à la messe ou, je ne sais pas, contre notre gré, ça peut arriver. Mais on peut toujours faire cette communion spirituelle. Et je vous en cite un extrait. D'ailleurs, ça peut valoir même pour la communion sacramentelle, peut-être pour nous aider à communier de manière plus consciente et plus fructueuse. Seigneur Jésus, je crois fermement que tu es présent dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Je t'aime plus que tout et je te désire de toute mon âme. Après toi, languit ma chair comme une terre assoiffée. Je voudrais te recevoir aujourd'hui avec tout l'amour de la Vierge Marie, avec la joie et la ferveur des saints. Puisque je suis empêché de te recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement visiter mon âme. Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de te recevoir réellement et substantiellement avec ton corps, ton sang, ton âme, ta divinité, lorsque les circonstances me le permettront. Et d'ici là, Seigneur Jésus, viens nous visiter spirituellement par ta grâce pour nous fortifier dans nos épreuves. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Voilà. Donc on peut être empêché, ben, parce que, je ne sais pas, on est en voyage et puis ce n'est pas possible. Mais ça peut être aussi une situation, quelquefois, qui contrevient à l'enseignement de l'Église, pour la question du mariage, ou je ne sais pas, quelquefois il y a des... Mais il y a des gens, je crois, qui ont un vrai désir de Jésus, mais la discipline de l'Église fait que, voilà, c'est pas possible. Mais on croit qu'à travers cette communion spirituelle, mais qui n'est pas sacramentelle, ben, le Seigneur peut aussi donner sa grâce. Le Seigneur est au-dessus de ses sacrements, donc ça ne limite pas le bon Dieu. Mais la grâce du sacrement, c'est de pouvoir toucher, voilà. Alors... Toujours dans la communion, un petit paragraphe que j'ai rajouté, c'est la communion avec les défunts et les absents. Parce que je trouve que la communion, S'il y a un moment où on peut être proche de nos défunts, le moment par excellence, pour moi, c'est le moment de la communion. Parce qu'on est uni à Jésus et lui, est, on peut espérer en tout cas qu'il est proche de Jésus. C'est vraiment le moment où on est appelé à rejoindre spirituellement ceux qui nous ont déjà quittés. Et je pense que c'est... Bon, c'est en étant proche de Jésus, on est proche aussi de ceux qui sont morts en Jésus. Et d'ailleurs, c'est ce que disait Sainte Thérèse de Lisieux à propos de sa première communion et de l'absence de sa mère qui était décédée quelques années avant. Voilà ce que disait Sainte Thérèse. « Oh non, l'absence de maman ne me faisait pas de peine le jour de ma première communion. » Le ciel n'était-il pas dans mon âme et maman n'y avait-elle pas pris place depuis longtemps? Ainsi, en recevant la visite de Jésus, je recevais aussi celle de ma mère chérie qui me bénissait, se réjouissant de mon bonheur. Voilà, alors je pense que c'est important d'avoir ça à l'esprit pour des personnes qui ont pu vous quitter et qui vous sont proches. Mais c'est vrai pour les défunts, mais aussi pour les vivants. Parce que quand on communie, on n'est jamais isolé des autres. Et du coup, on peut porter aussi les autres dans notre communion. On peut être unis. Peut-être qu'il y a des gens qui ne communient pas, qui sont loin de Jésus et tout ça, mais on peut les porter. C'est le moment ou jamais où les porter spirituellement devant Jésus, hein, pour qu'on fasse un en Jésus. Voilà. Après, un petit mot sur la distribution de la communion. Je ne vais pas tout détailler, hein, mais déjà, pour les prêtres, alors ils prennent la communion, mais les fidèles reçoivent la communion. Normalement, on ne va pas prendre se servir, mais on reçoit. Derrière, c'est plutôt l'attitude spirituelle qui est importante. Vraiment. Alors après, c'est pour la communion sous les deux espèces. Je ne vais pas rentrer non plus dans les détails, mais voilà ce que dit l'introduction, la présentation générale du Missel romain. Il est très souhaitable que les fidèles, comme le prêtre est tenu de le faire lui-même, reçoivent le corps du Seigneur avec des hosties consacrées à cette même messe et dans les cas prévus, qu'ils participent au calice, afin que même par ces signes, la communion apparaisse mieux comme une participation au sacrifice actuellement célébré. Alors, c'est vrai que c'est plus compliqué, la communion au précieux sang. Et avec le Covid, c'est encore... oui, alors c'est intention. Alors, il y a plusieurs manières de faire normalement, mais c'est le prêtre qui... Alors, bien sûr, on ne communie pas dans la main quand ce n'est pas intention. On communie sur la langue. Mais voilà. En tout cas, il y a une insistance... Autant que faire se peut, ça serait bien de pouvoir communier sous les deux espèces. Peut-être que l'an prochain, on pourrait faire ça. C'est vrai qu'avec le Covid, on a supprimé plein de choses qui ne sont pas revenues après. Alors, et aussi, autant que faire se peut, de communier aux hosties qui ont été consacrées pendant la messe. Celles du tabernacle, elles sont pleinement consacrées, on reçoit Jésus tout au long. Mais c'est plutôt au niveau du signe. On a assisté au sacrifice et on communie à la victime qui est offerte. Hein, donc c'est... Au niveau du signe, c'est plus parlant. Hein, mais bon. Voilà. Alors, communier dans la bouche ou dans la main. Pour certains, ça leur est un peu égal. Pour d'autres, ça leur est pas du tout égal. Mais ce qui est intéressant... Alors, la loi générale, c'est quand même la communion dans la bouche. Et après, c'est plutôt une exception qui est devenue un peu la règle. La communion dans la main, mais... Il y a eu un retour en arrière ces dernières années où il y a beaucoup plus de gens qui communient dans la bouche, mais vous êtes complètement libre, comme vous voulez. Sauf qu'on ne peut jamais obliger quelqu'un à communier dans la main. C'est dit clairement. Ce qui est, hélas, n'est pas toujours... quelqu'un qui était parti complètement furibond parce que le prêtre ne voulait pas lui donner la communion dans la bouche. Et du coup, il a préféré ne pas communier. Ben oui, ce sont de pauvres pécheurs. Oui, oui, mais oui, oui, oui. Alors après, ça peut être des choses très concrètes aussi. C'est quelqu'un qui n'a jamais communié dans la bouche, il ne sait pas forcément comment on fait. Il se dit, mais je vais avoir l'air de con en tirant la langue. Ben, quelquefois, ça fait des obstacles. Moi, ça m'est un peu égal. L'important, c'est que ça soit fait avec un certain nombre de critères. Je vous énumère quelques critères. D'abord, il faut que ça manifeste un certain respect et une certaine noblesse. On ne prend pas entre le pouce et l'index, mais ça arrive. Ou alors, je vais les suivre. Aussi, quand on dit « Amen », c'est dire qu'on y croit. Alors, c'est des choses qui peuvent sembler élémentaires, mais aussi, on communie devant, tourné encore vers l'autel, on ne repart pas à sa place avec l'hostie. Bon, quelquefois, on doit courir après les gens. Oui, pour les scouts, je ne vise personne. Mais je trouve que un minimum, c'est d'avoir les mains propres, quelquefois, sans doute. Peut-être qu'il faudrait qu'on installe... Oui, c'est ça. Mais alors, c'est des choses toutes simples, mais qui... aussi, quelquefois, si c'est des hosties un peu friables, qu'on... Voilà, c'est, dans ce point de vue-là, c'est mieux que ça ait communié dans la bouche, voilà. Et voilà, dernier point, on n'obligera jamais les fidèles à adopter la pratique de la communion de Romain. Mais on laisse libre de communier de l'une ou l'autre façon. Voilà. Après, autre point, il faut que j'accélère un petit peu, parce que porter la communion aux malades, en fait, c'est d'abord pour ça que le tabernacle est né. C'est pour garder l'Eucharistie, pour le donner aux malades, et pour pouvoir l'emmener aux malades. Alors ça, c'est vrai que je pense que là, on dit comme pour communier dans la main, il y a un minimum, on prend, voilà. Et alors certains disent, ben, vous faites un trône et puis voilà. Je peux vous lire, mais ça prolonge un peu, mais c'est Cyril de Jérusalem. Voilà ce qu'il nous dit. Faire de la main gauche un trône pour la main droite, puisque celle-ci doit recevoir le roi. Mais après, aussi pour porter la communion aux malades, effectivement, je pense qu'il y a besoin déjà d'y croire. Mais quelqu'un est venu avec son mouchoir pour mettre l'hostie dans le mouchoir. Ça ne coûte pas grand-chose, une petite custode par rapport à Jésus. je pense que... Et puis, je pense qu'il y a besoin... Alors, il y a des recommandations qui sont faites. Après, bon, on y va directement, on ne va pas faire le détour par le supermarché et tout ça, et on ne met pas dans son sac à main. Et puis, voilà, mais des choses qui... Mais ça, je pense que ça va mieux en le disant, de dire, ben voilà, pour montrer que c'est vraiment... C'est le Seigneur qu'on emmène, c'est pas... voilà. Et... Oui. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y, il y aurait besoin, en tout cas, de donner un minimum d'éléments. Ce n'est pas forcément de mauvaise volonté, mais je pense d'éduquer la foi. Bon. L'action de grâce, alors c'est bien qu'elle ait lieu en partie pendant la messe, l'action de grâce, mais elle ne peut pas être très longue, dans le sens où, dans la liturgie, normalement, on fait en sorte que ça... Bon, il peut y avoir 3 minutes, hein, bien sûr, mais pas 10 minutes d'action de grâce pendant la messe, pour qu'il y ait toujours le mouvement de la célébration. Mais en revanche, ils encouragent à la prolonger après, ce qui n'est pas toujours vrai, mais ce qui serait certainement mieux pour bien... Là, c'est toujours l'aspect objectif et l'aspect subjectif. Alors, je n'aurai pas le temps de vous parler beaucoup de l'adoration, mais quand vous recevez Jésus, vous le recevez vraiment. Mais en même temps, une chose est de le recevoir sacramentellement, corporellement, on pourrait presque dire. Autre chose est de vraiment en profiter. Et ça, on a besoin de temps. Et c'est là qu'on voit une complémentarité entre tous les sacrements où la grâce nous est communiquée et l'oraison, la prière intérieure où on permet à la grâce de se déployer. C'est comme si vous mettez la graine, mais après il faut lui laisser le temps pour qu'elle se déploie. Ou vous mettez la bûche dans le feu, mais il faut lui laisser un peu de temps pour qu'elle se laisse gagner par le feu, etc. Donc l'action de grâce, c'est ça. L'adoration eucharistique, c'est ça aussi. Elle est toujours en relation avec la messe. Mais c'est pour que, sinon ça passe trop vite. Et subjectivement, on n'a pas le temps. On ne réalise pas, quoi. Donc, bon. Alors, il y a la prière après la communion. Bon, je passe rapidement. Et après, il y a le rite de conclusion qui est pu. Donc, on a la prière après la communion. Donc, se termine la liturgie eucharistique. Et après, c'est le renvoi. Allez, c'est terminé. Alors, on vous bénit. Mais du coup, ça veut dire que c'est les annonces, c'est entre la prière après la communion et puis la bénédiction, le salut final et la bénédiction. C'est plutôt là que ça a sa place. Dans le missel romain, il n'y a pas prévu de procession de sortie. Mais de fait, en pratique, je crois que ben voilà, il faut reconduire les gens vers le dehors. Et du coup, voilà. Mais la messe est terminée quand le prêtre embrasse l'autel après la bénédiction finale. Voilà, la messe est terminée. Alors, habituellement, il y a un chant final, etc. Mais voilà. Je ne sais pas si vous avez quelques questions.
Moi, j'ai des problèmes avec le prêtre qui comme celle.
Oui.
Passe d'un côté à l'autre. Et je pense que la plupart, il est prôné par Kerr.
Non. Oh. Pas moi, en tout cas. Non, non, non. Justement, c'était dans l'histoire de l'Église. Au début, il y avait beaucoup plus d'improvisation dans les premiers siècles. Bon, après 68, il y en a eu beaucoup aussi d'improvisation, plus ou moins heureuse. Mais justement, l'idée, c'est que, et que défendait beaucoup le pape Benoît XVI, c'est que, même le pape François, la liturgie ne nous appartient pas. Nous, on est le prêtre, on est au service de la liturgie de l'Église, qui est cette dimension assez objective. Et du coup, c'est je prends la prière que me propose l'Église et cette prière, elle change. Il y a des parties qui ne changent pas. Effectivement, les prières eucharistiques, bon, c'est toujours un peu les mêmes. Mais moi, ça me soulage l'esprit. Je lis, voilà, ça me facilite la tâche. J'ai pas besoin. Et je me dis pas, tiens, j'ai oublié quelque chose. je suis tout simplement et ça, c'est un repos pour moi. Mais aussi parce que, mais il y a des parties qui changent. Les préfaces, les oraisons sont différentes à chaque messe, etc. Donc il y a beaucoup de parties qui changent aussi et qui sont pas à notre liberté quelque part. Alors on a certains choix, la liturgie nous laisse quand même un certain choix, mais un choix limité.
Qu'est-ce que vous pensez de la prière dans la communication? Comment on dit? Après, c'est vrai que beaucoup de personnes ont dit, mais finalement c'était très confortable de voir la messe ce soir, et ça change
dans la vie. Je ne sais pas, vous dites à votre mari, vous lui donnez une photo de vous. Ça te va bien la photo? Moi, je vais aller faire. Je ne sais pas comment il vivra les choses. C'est entre le virtuel et le réel. Alors, Jésus est réellement présent. Tandis qu'à la télé, il n'est pas réellement présent. Alors, quand on est malade, qu'on ne peut pas aller jusqu'à l'église, c'est un grand service de pouvoir. Donc, je ne critique pas la messe télévisée, c'est très bien. Mais sinon, vous envoyez une photo. Mais ce n'est pas la même chose d'avoir la photo ou d'avoir la personne. Il n'y a pas la communion. Et il n'y a pas la communion sacramentelle aussi. Et c'est vrai que c'est aussi le lieu de l'Église. C'est le lieu où de la communauté ecclésiale. Sinon, on est un peu ma foi à moi avec Jésus. Et puis là, voilà, on se déplace pour aller à l'Église. Il y a aussi ce déplacement qui est important intérieurement, pas seulement géographiquement, mais intérieurement. Voilà, je sors de mes habitudes et puis je vais